Dans cet épisode un peu particulier, on reçoit Raphaël Sachta, l'homme qui se cache notamment derrière Badzine, Badminton Photo et Solibad, ce qui nous intéresse aujourd'hui. Il nous a présenté le fonctionnement de Solibad en se focalisant sur les Solibad Days, un événement caritatif mondial ouvert à tous qui aura lieu les 5, 6 et 7 avril 2024. Il nous en parle tout de suite dans ce nouvel épisode de...
21 Shuttle Badminton at its very, very best.
Et nous recevons aujourd'hui Raphaël Sachta. Salut Raphaël, merci beaucoup d'être là.
Salut à tous les deux, merci pour l'invitation.
Et je suis comme d'habitude accompagné de Benoît. Salut Benoît.
Salut Ewan, salut Raphaël.
Salut.
Alors, bah, Raphaël, ma première question, elle est assez générale et on sait que tu fais beaucoup de choses dans le BAD. Donc, est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditeurs pour ceux qui ne te connaîtraient pas et voilà, faire un petit tour un peu de tes activités dans le badminton?
Alors, donc moi, je suis journaliste à la base, c'est ma formation et j'ai commencé à travailler dans le badminton d'abord à France Badminton il y a bien longtemps maintenant, en 1999, qui était un magazine français. On a ensuite lancé avec des amis Badzine en France, très peu de temps après, tout début des années 2000, donc ça fait un petit moment que je suis le circuit. Et puis je me suis mis à la photo parce que ben, il n'y avait pas de photographe, très peu. Antoine Roulet était là, mais il se déplaçait pas trop. Donc plutôt que de faire juste des interviews, je me suis dit que ce serait sympa de faire interviews et photos. Et ensuite, très vite, j'ai eu la chance de collaborer avec la Fédération Internationale, qui était basée en Angleterre à l'époque. Et donc, ils m'ont envoyé, comme je parlais pas trop mal l'anglais, ils m'ont envoyé faire le tour du circuit mondial. En faisant essentiellement des articles d'abord et puis petit à petit des photos. Donc je suis un petit peu monté en compétence sur ce domaine-là. J'ai créé l'agence Badminton Photo, qui est devenue partenaire officiel de la Fédé internationale puis de la Fédé française en 2004. Donc voilà, j'ai parcouru la planète et j'ai eu cette chance d'être au plus près des cours des joueurs depuis une bonne vingtaine d'années maintenant. Ce qui m'a aussi amené avec des amis à créer Solibad, donc qui est une association caritative, sur le constat que ben, on était tous les uns les autres bien occupés dans des beaux hôtels et on allait dans des endroits qui parfois étaient un petit peu compliqués parce qu'il y avait aussi une grande misère à côté de ces grandes mégalopoles asiatiques notamment. Donc on a décidé avec Ongyan, qui était une bonne amie à l'époque, et quelques autres joueurs et des amis français qui m'ont bien aidé à monter cette association, que bah, on pouvait servir la communauté du BAD pour faire du bien et pour monter des projets ou pour soutenir des projets caritatifs. Donc voilà, donc ce sont ces trois casquettes un petit peu de journaliste, photographe et utopiste qui m'amènent à voyager et à être plongé dans le monde du badminton au quotidien.
Et justement, nous, aujourd'hui, on va surtout se focaliser sur Solibad. Et du coup, je me demandais, quand tu l'as créé, est-ce qu'il y avait une association semblable dans le badminton, ou alors est-ce que tu l'as créé justement parce qu'il n'y en avait pas? Et est-ce que tu as tu t'es inspiré de quelque chose qui existait déjà dans un autre sport, ou même qui existait déjà en dehors du monde du sport?
Alors, il n'y avait pas d'association caritative dans le badminton, ça c'est sûr. Ce qui m'inspirait, c'est le dessin que j'avais moi quand j'étais petit. Je voulais être médecin sans frontières, en fait. Donc, c'était avant de changer d'avis et de devenir journaliste. Donc, je savais à un moment donné que j'aurais envie de faire du caritatif. Et eh bien, ça s'est présenté que, comme je connaissais très bien les joueurs de très haut niveau, qui étaient très connus, qui avaient une légitimité, qui avaient aussi envie de faire des choses, on s'est dit qu'on ferait quelque chose et que ça pouvait marcher assez facilement parce que bah, eux, ils avaient une notoriété telle que c'était facile de lancer une aventure comme ça grâce à eux. Et puis il y a aussi cette communauté du badminton qui très vite a été présente et qui nous a vite soutenus parce qu'eux aussi avaient envie de faire des choses. Mais c'était vraiment quelque chose d'assez unique, et je pense que dans d'autres sports ça n'existe pas non plus. Il y a beaucoup de sportifs de haut niveau qui ont leur propre fondation, mais que toute une communauté d'un sport travaille ensemble pour des programmes en commun, je ne pense pas que ça existe en fait encore aujourd'hui. Alors je me trompe peut-être, hein, je ne connais pas tous les sports, mais c'est quand même une association qui est assez unique en son genre.
Tu as parlé un peu de la genèse de Solibad et de son histoire. Finalement, aujourd'hui, pour nos auditeurs qui te connaîtraient pas et qui connaîtraient pas l'association, qu'est-ce que c'est Solibad ? Qui êtes-vous ? Et qu'est-ce que vous faites ?
Alors, on est une bande de fous furieux, des copains, qui nous prenons pas du tout au sérieux, mais qui avons entre les mains un bel outil qui est ce sport hyper ludique, qui est mixte, qui est transgénérationnel et puis qui intéresse beaucoup de monde autour de la planète. Et avec des gens qui aussi sont généreux, on le voit, la communauté du badminton est quand même assez particulière. On voit très souvent sur les forums quand il y a quelqu'un qui va voyager dans un autre pays, il dit bon ben voilà, je viens, je sais pas, au Canada, aux États-Unis, en Asie, et tout de suite il y a les gens du forum qui accueillent ces voyageurs chez eux. Il y a quelque chose de très particulier dans cette communauté, et donc ça fait que c'était simple en fait de monter ce projet-là, et ça a bien fonctionné grâce à ça, je crois.
Et est-ce que du coup comment vous faites pour récolter des fonds et du matériel ? Est-ce que vous avez des actions qui reviennent tous les ans ? C'est quoi vos rendez-vous ?
Oui, alors tu as raison, je n'ai pas tout à fait répondu à la première question. Qu'est-ce qu'on fait et qui on est ? On est donc une association caritative. Purement caritative, on ne fait pas du développement du badminton comme certains peuvent le penser. On lève des fonds en fait et on essaye de récolter de l'équipement de bad pour les envoyer sur des programmes. Alors il y a différents types de programmes, il y a des programmes qui sont complètement liés au badminton, notamment en Indonésie qui est un de nos gros programmes où on se sert de l'outil badminton pour aider des gamins qui sont à Jakarta dans une déchetterie et qui font du badminton en fait pour s'aérer l'esprit dans un premier temps, mais aussi pour créer une communauté autour du sport, et on peut les suivre, on peut déceler chez certains des difficultés sociétales, on peut voir s'ils ont des carences en vitamines, on les prend un petit peu sous notre coupe, et le badminton est un prétexte en fait pour les aider à sortir de leur environnement. Alors, c'est vrai dans la déchetterie de Jakarta, c'est vrai aussi dans les autres programmes ruraux où sont des populations très pauvres et qui vivent un peu en autarcie, et ce sport permet de sortir un petit peu de leur environnement. Donc eux, on les soutient financièrement. On soutient toujours des programmes qui sont soit déjà en cours, soit en train de se créer, mais ce sont toujours des partenaires locaux qui initient en fait les programmes, et nous, on vient en soutien. Donc ça, c'est important parce que ça veut dire qu'on ne vient pas avec nos idées d'occidentaux en disant on va faire ci, on va faire ça. On compte vraiment sur des gens sur le terrain, et c'est eux les vrais héros en fait qui font beaucoup beaucoup. Nous, on est là pour un accompagnement. Mais voilà, le propos, c'est de les aider financièrement, de les accompagner dans la manière dont ils gèrent leur programme, et d'envoyer de l'équipement. Donc on fait ça, on récolte des raquettes, des chaussures. Ça, on le fait pour répondre à ta dernière question, on le fait sur les internationaux de France, sur certains championnats de France, donc ça sont les moments de récolte de matériel, ou des tournois privés qui le font aussi de manière assez régulière et qui nous envoient les matériels usagés, et puis on fait, enfin on demande en tout cas à nos partenaires, aux clubs, aux ligues, aux comités d'avoir des actions de levée de fonds, parce qu'il faut aussi les aider en dehors de l'envoi d'équipement, et donc voilà, chacun peut faire comme il peut, comme il a envie pour lever des fonds, et c'est aussi pour ça qu'on lance les Solibad Days, dont on parlera j'imagine tout à l'heure, pour qu'il y ait une émulation à un moment dans l'année où tout le monde s'y met et tout le monde essaye de récolter des fonds pour nos programmes.
Justement, juste avant d'enchaîner sur les Solibad Days, tu nous as offert une transition parfaite, mais juste avant, je voudrais te poser une dernière question, qui concerne plus Solibad de manière générale. Si je dis pas de bêtises, vous avez 12 programmes en cours en ce moment, et c'est exactement ce que tu disais, il y a la déchetterie de Jakarta, mais en fait, vous accompagnez presque au-delà du badge, j'ai envie de dire, vous soutenez des écoles, et j'ai en tête le projet du Népal, mais est-ce que tu pourrais nous dire dans quel pays vous êtes présent avec ces 12 programmes ?
Alors, tous les programmes sont uniques en fait, sont très variés, j'ai envie de dire même n'ont rien à voir les uns avec les autres. On se lance sur un programme parce qu'on sait que ce sont des programmes qui sont bien gérés, qui sont des programmes à petite échelle, parce que nous, on n'a pas énormément de moyens, donc on veut que ce qu'on envoie, ce soit efficient. Et il y a aussi une question de confiance en les gens qui pilotent ces programmes-là. Donc tu parles du Népal, c'était un très très joli projet où on est parti au Népal avec quelques-uns de l'association et on a rencontré un directeur d'école incroyable qui nous a dit que lui, bah, il avait des gamins dans la ruralité de Katmandou, autour de Katmandou, qui n'avaient rien et qui avaient peu de moyens de faire des activités. Et donc, on a mis en place à la fois du badminton, des cours de badminton, mais aussi on a mis en place un parrainage vis-à-vis des élèves pour qu'ils puissent leur payer leurs uniformes et les connexions internet de l'école. Donc ça, c'est un petit programme, entre guillemets, en termes de financement, mais ça change la vie des gamins parce que bah, ils avaient des fournitures scolaires et un uniforme pour l'année, ce qui n'était pas toujours le cas pour certaines familles. Et c'était simple pour un club de mettre 50 euros ou 100 euros dans l'année pour aider un gamin en particulier. Donc ça, ça a bien fonctionné. Mais c'est vrai qu'on a des... On a des programmes qu'on soutient comme à Madagascar, qui est cher à mon cœur, où on accompagne une très belle association qui est en train de créer un village pour les enfants des rues. Donc ils sont depuis un an et demi maintenant à Madagascar. Ils vont tous les mercredis jouer avec les gamins, parfois au badminton, parfois à d'autres sports. Mais en les nourrissant, en faisant attention aussi à leurs carences, etc. Et le but, c'est de les apprivoiser pour qu'ils puissent venir dans le village qu'ils sont en train de construire, où là, il y aura tous les sports, y compris le badminton, pour les aider à leur développement. Voilà. Donc, on a vraiment des programmes qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, mais qui sont tous incroyables, avec des gens qui font des choses magnifiques sur place. Donc, nous, on vient en soutien à ça. Il y a un programme en Ouganda où on aide une communauté frappée par le sida depuis des années. Donc là, on est plus dans la logistique et dans le financement. On aide un programme en Malaisie où c'est un orphelinat qui est tenu par une dame incroyable. Et là, c'est pareil, on les aide pour la nourriture et pour le logement. Donc c'est vraiment très très varié et à chaque fois on suit ces petits bouts avec beaucoup d'empathie et beaucoup d'intérêt parce qu'ils sont super et puis bien souvent ils sont... Alors ils jouent au badminton des fois juste pour s'amuser, donc le badminton n'est pas toujours au cœur des programmes.
Et je me demandais comment ça se passe avec les ambassadeurs. Tu sais qu'il y a beaucoup de joueurs qui avaient répondu présent. Est-ce que tu peux nous en citer quelques-uns? Je sais qu'il y en a beaucoup. Et comment ça se passe? Est-ce que tu les sollicites pour un projet, un programme en particulier? Ou alors ils mènent de temps en temps des petites actions dans leur coin? Ils viennent quand il y a besoin? Comment ça se passe?
Est très variable et ça dépend beaucoup des ambassadeurs et de leur personnalité. Alors on a la chance d'en avoir beaucoup et de haut niveau, des gens qui sont très connus. En France, on a Christo et Tommy Popov qui sont super sympas. Alors ils sont beaucoup sollicités par ailleurs. Mais dès qu'on leur demande de nous filer un t-shirt ou une raquette pour faire une tombola, ils le font avec grand plaisir. Ils ont même reçu à Fos un jeune qui avait remporté le premier prix de la tombola il y a 2 ans, je crois. Donc ils ont accueilli chez eux avec leur papa qui entraînait le jeune homme en question. Donc j'imagine que ça a créé des étoiles dans ses yeux à ce jeune homme. Et puis après, chaque ambassadeur fait comme il peut. Il y a des ambassadeurs qui donnent 1% de leur prize money. Par exemple, la joueuse de mixte chinoise là, qui gagne tout, Yang Yakyong, elle donne 1% de ses émoluments sur le circuit. Donc ça fait une somme quand même assez conséquente. Tai Tsuying nous aide financièrement aussi. Carolina, elle est toujours... Carolina Marine, elle est toujours très présente, elle essaye de faire le maximum aussi. C'est vraiment très variable. Il y en a qui mettent des lacets Solibad sur les cours. On voit des joueurs qui ont un lacet multicolore et donc ça fait parler de l'association, donc ça assure la visibilité aussi. Donc c'est voilà, bon, chacun le vit de manière différente. Il y en a qui sont très investis, qui viennent sur le terrain, notamment les Écossais. Adam Hall et Christy Gilmour, ils sont venus l'année dernière à Jakarta. Dans la déchetterie, ils ont joué avec les enfants. Michel Lee aussi qui est venu. Enfin, il y en a qui s'investissent énormément et on sent qu'ils ont à cœur de faire quelque chose avec les moyens et le temps qu'ils ont, bien sûr, parce qu'ils sont bien occupés. Mais c'est touchant de voir que ces stars sont en fait des gens très simples et qu'ils ont envie aussi de faire leur part et d'aider ces programmes.
T'as un peu évoqué le sujet de notre prochaine question, mais tu es là en partie pour ce sujet principalement, les Soli Bad Days. Peut-être que certains ont connu les Soli Bad Days comme nous avec Ewan il y a, je vais peut-être dire une bêtise, mais il y a une dizaine d'années maintenant avec les flash mobs. Même nous, ça nous rajeunit pas. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ces journées? Qu'est-ce que c'est les Soli Bad Days? À quoi ça sert?
Alors, c'est une idée qui est un petit peu saugrenue parce que ça n'existe pas dans le monde encore. Hein. Il n'y a aucune communauté sportive, même dans le foot, dans le basket, qui fait ça. Pour faire simple, c'est un téléthon mondial. En gros, c'est sur 3 jours, on va essayer de mobiliser le plus de gens possible à tous les niveaux, que ce soit les joueurs loisirs, les clubs, les ambassadeurs, évidemment, à haut niveau, les comités, les ligues, les académies de badminton, mais aussi le monde corpo, le monde des entreprises. Le but, c'est que sur 3 jours, il y ait une mobilisation pour des levées de fonds avec le fait de faire des événements qui marquent aussi pour leur côté jovial, leur côté fun, leur côté original. Donc, c'est de créer des moments de badminton un peu partout dans le monde avec une levée de fonds. Donc, on a balancé des idées un petit peu partout en disant, après, à chacun de s'approprier ces Soli Bad Days dans la manière dont ils imaginent être le plus efficace possible avec la culture, avec les mœurs de chacun, de chaque pays et pour chaque ambassadeur. Donc, chacun a pris un petit peu la mesure de ce que ça peut représenter parce que ça peut devenir assez énorme. Hein. On espère que d'ici quelques années, ce sera un rendez-vous incontournable et que toutes les stars feront quelque chose, que tous les grands clubs feront quelque chose. Les fédérations ont commencé à nous accompagner aussi. Donc voilà, c'est faire un téléthon mondial et fun et original, en gros.
Et dans nos auditeurs, il y a un peu de tout. Il y a beaucoup de joueurs, évidemment. Il y a des membres de comités, il y a des membres de bureaux de clubs. À chacun à leur échelle, qu'est-ce qu'ils peuvent faire concrètement?
Alors, s'ils ont un gymnase, le plus simple, donc c'est sur 3 dates, hein, les 5, 6, 7 avril, donc ça vient vite, mais c'est quand même relativement facile à organiser. S'ils ont un gymnase, ils peuvent faire un tournoi interne déguisé, ils peuvent faire un badminton, ils peuvent faire un tournoi interne sympa, ils peuvent faire un barbecue à côté du gymnase, faire une buvette solidaire, enfin toutes ces petites idées-là qui sont, j'ai envie de dire, assez simples et ce sont des choses qui se font déjà par les clubs solidaires. Mais ils peuvent aussi imaginer des choses qui se font en dehors des gymnases. Ça peut être une marche solidaire, une rando solidaire, ça peut être une tombola, un bingo, ça peut être un resto qui est organisé. Peu importe, le moment, c'est qu'on retrouve de la convivialité, qui s'amuse en le faisant, parce qu'on sait que c'est compliqué pour les clubs d'organiser des choses un peu à l'arrache comme ça, un mois et demi avant, et que ça demande du temps, de l'énergie et des bénévoles qui sont de plus en plus rares. Mais s'ils sortent un petit peu de ce qui se fait habituellement, peut-être que les gens vont jouer le jeu, ils vont aimer, ils vont aider et ils vont se dire à la fois ça crée une convivialité, ça fédère un petit peu au sein du club, non seulement les joueurs mais aussi les conjoints, les parents qui peuvent s'investir parce qu'il y a ce côté solidaire sympa. Donc c'est gagnant-gagnant, j'ai envie de dire. Il y a des choses qui peuvent se faire, même s'il n'y a pas un gymnase avec des créneaux pour faire un tournoi, il y a moyen de faire quelque chose d'un peu sympa pour mobiliser et pour lever un peu de fonds. Alors c'est pareil, on ne demande pas au club d'avoir des objectifs de lever de fonds colossaux parce qu'on sait que c'est compliqué, mais on sait aussi qu'un club qui arrive à avoir 150 ou 200 euros sur un week-end ou sur une journée, avec 150 et 200 euros, ils seraient surpris de ce qu'on peut faire en Indonésie ou à Madagascar. Et en fait, c'est assez... ça fait sens et c'est important aussi parce qu'ils se disent qu'ils participent à quelque chose de grand. Et nous, on s'assure que l'argent qui est collecté, il va sur place. On ne l'a pas évoqué tout à l'heure, mais on est tous bénévoles, hein, à Solibad. On paye nous-mêmes nos billets d'avion quand on va sur les programmes. Donc tout ce qui est récolté par les clubs, les ligues, les gens, les dons, etc., ça va à 100% sur le terrain. Et on se bat depuis 15 ans pour ça. Donc ça vaut le coup de se mobiliser et de faire quelque chose de sympa au sein des clubs, des ligues et des comités.
Et cette édition spécifique, tu évoquais justement la destination de l'argent. Est-ce qu'elle va aller dans un pays en particulier pour un programme, ou alors elle va venir renforcer un peu renflouer un peu les caisses, on va dire, de Solibad, et après être utilisée au fil du temps sur plusieurs projets?
Oui, c'est la deuxième solution qui est privilégiée, parce qu'on ne veut pas non plus que... On y avait réfléchi, hein, évidemment. On sait qu'il y a des programmes qui sont plus vendeurs, entre guillemets, et qu'il y a beaucoup de clubs qui veulent se mobiliser pour un programme en particulier, mais on ne veut pas envoyer de l'argent qui n'est pas nécessaire sur un programme et puis se retrouver avec d'autres programmes qui en auraient vraiment besoin, où il y aurait plus de bénéficiaires, simplement sous prétexte que on avait fléché les bénéficiaires auparavant, ou que des clubs préfèrent donner à un programme. Nous, on a cette capacité d'arbitrage-là, et on le fait pas mal depuis 15 ans. Donc, je pense qu'on va continuer dans cette mouvance-là et se dire on collecte des fonds, et puis quand il y a des besoins particuliers, que ce soit pour les projets pérennes ou pour les situations d'urgence, on l'a vu il y a peu de temps où la moitié de la déchetterie est partie en feu, là, on a mobilisé notre communauté, on est aussi allé puiser dans nos fonds, et c'était important qu'on puisse dégager un financement rapide et urgent pour aider ces familles-là et ces enfants-là, qu'on n'aurait pas forcément pu faire si jamais on a fait flécher nos autres actions vers d'autres programmes.
Je trouve ça bien aussi que tu le disais tout à l'heure, mais que tu rappelles que même avec 150 ou 200 euros, il ne faut pas que les petits clubs, entre guillemets, se disent « oui, non, nous, mais on n'a pas d'intérêt à organiser un événement pour les Solibad Days, on a peu de licenciés, ou on est vraiment loin dans un petit village, on ne va pas rapporter grand-chose ». Et je trouve ça vraiment important, je pense qu'il y a des clubs qui nous écoutent, donc je pense que c'est important de le redire, mais vraiment, il n'y a pas de petites sommes en fait pour vous.
Il n'y a pas de petite somme, tu fais bien de le rappeler, tu as tout à fait raison. Avec 150 euros, pour être très concret, on peut, nous, accompagner deux ou trois familles sur plusieurs mois en Indonésie. Donc, on ne se rend pas compte, hein, mais ça veut dire qu'ils vont pouvoir vivre un peu mieux, ils vont pouvoir manger peut-être trois repas au lieu de deux. Ce sont des sommes qui sont conséquentes. Pour nous, c'est difficile d'imaginer, mais dans une déchetterie ou pour des gamins des rues, 150 euros, c'est une manne financière énorme. Ça fait une différence dans leur vie quotidienne pendant des mois. Donc, oui, c'est une mobilisation. Oui, c'est compliqué de mettre en place des choses. Mais quand on voit ce que ça peut produire comme effet, ça vaut vraiment le coup. Et comme tu dis, un petit club, il peut faire quelque chose qui sera sympa aussi. Encore une fois, j'insiste là-dessus. Il ne faut pas que ce soit une corvée. On va essayer de faire en sorte que ces Solibad Days deviennent un événement récurrent, que ce soit pérenne, et que les gens, année après année, ils se disent « Ah oui, l'année dernière, il y avait ça qui avait été fait par le club, c'était vachement sympa, ça peut être un tournoi de air badminton aussi. » Enfin, il y a plein d'idées. Alors, il faut avoir un petit peu de créativité, je pense, pour que ce soit un succès. Mais une fois que c'est mis en place, par les grands clubs comme par les petits clubs, ça peut devenir récurrent, et ça peut devenir un moment dans l'année où tout le monde va se dire « cette année, on va faire ça de nouveau, on va mobiliser plus de gens, on va inviter plus de gens. » Ça peut monter en puissance, et puis ça fera du bien au club aussi. C'est de la vie dans le club, et pour les petits clubs c'est encore plus vrai, où il n'y a pas forcément des activités autour de l'activité pure, et ces moments de convivialité, d'entraide, et qui vont peut-être aussi faire en sorte que les clubs deviennent des clubs solidaires et faire des actions tout au long de l'année, parce qu'ils trouvent que ça fait c'est bien d'aider aussi, d'aller au-delà de l'investissement sportif, et que on peut faire des choses sympas aussi grâce au sport.
Et justement, tu parlais tout à l'heure d'un événement que vous organisez. Quand je dis tout à l'heure, c'était en off avant qu'on commence à tourner, à Brie, si je dis pas de bêtises. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Qu'est-ce que vous avez prévu? Qui peut participer?
Alors, Brie-sur-Marne, c'est une petite ville où nous avons notre siège, et qui se trouve à 10 minutes de l'INSEP. Donc, c'est pratique pour mobiliser les joueurs de haut niveau. Donc, on va faire une soirée à la fois démonstration de BAD avec plusieurs joueurs. Il y a des joueurs de Saint-Maur qui vont venir, notamment Yanis Godin, Maël Catan, Alex Lanier qui sera là aussi. On a Myriane Enmer qui est notre ex-championne du monde et championne de France de raquettelon, qui joue très bien au BAD et d'autres sports, enfin les autres sports de raquette. On a aussi des parabadistes qui vont venir normalement faire une démonstration, et ce sera une soirée donc donc bad et musique, donc on a des groupes musicaux qui vont venir, on a un magicien qui sera là aussi, on va accueillir des jeunes du foyer de briques, on va commencer à accompagner aussi, c'est une de nos actions qu'on lance en France aussi, donc on va leur montrer ce que c'est que du badminton de haut niveau pour ensuite aller les emmener faire des portes ouvertes et leur faire découvrir le sport pour les accompagner pour la saison prochaine. Autour d'un bon repas, il y aura sans doute d'autres surprises aussi, mais voilà, ça va être une soirée festive où les gens peuvent venir simplement pour voir, parce que ce sera la démonstration et écouter de la musique et prendre du bon temps autour de nos programmes. On va présenter évidemment nos programmes aussi et parler de l'association. Donc une soirée festive, pas prise de tête, pour les petits comme pour les grands. Donc n'hésitez pas à venir, ce sera en plus pas très cher. On fait des tarifs accessibles pour tout le monde, pour que chacun puisse participer. Et donc, ce sera dans le nouveau gymnase de Bry-sur-Marne. Ça, les gens peuvent se renseigner sur le site très vite, sur nos réseaux sociaux. On va communiquer. La fiche vient d'être finalisée. Donc, on va pouvoir mettre ça sur nos réseaux sociaux et donner plus d'infos aux gens.
Est-ce que tu peux rappeler la date de cet événement, s'il te plaît ?
Oui, c'est le vendredi 5 en soirée, 5 avril en soirée à partir de 19h30, donc au gymnase Marie-Amélie Le Fur à Bry-sur-Marne, qui est accessible en RER à un quart d'heure de Paris.
Voilà, si vous êtes sur Paris, auditeurs et auditrices, un petit rendez-vous donc le 5 avril. Et après, pour plus globalement, là c'est vrai qu'on a parlé d'événements spécifiques, je pense à donc les personnes qui nous écoutent et qui auraient envie de soutenir Solibad, de donner un peu de leur temps ou de vous aider tout court. Comment ça se passe le reste de l'année ? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire ?
Alors, dans les clubs, on encourage, bien sûr, on a ces Solibad Days où on essaie de mobiliser les gens sur une même date pour assurer aussi de la visibilité, faire un gros coup, entre guillemets, et lever des fonds sur une période bien donnée. Mais tous les clubs peuvent nous aider tout au long de l'année, déjà en signant la charte, ce qu'on appelle la charte Solibad, où ils s'engagent simplement à mettre nos logos sur leur support de com, donc les sites, les affiches, etc., à parler de ce qu'on fait aux jeunes de leur club, parce que pour nous, c'est important aussi que les jeunes soient au courant de cette appétence du club pour la solidarité, notamment envers des jeunes qui ont leurs âges, donc qu'ils apprennent et qu'ils sachent qu'il y a des gamins qui font du badminton, non pas pour s'amuser comme eux, mais pour sortir un petit peu de leur misère. Et puis, ils peuvent aussi être bénévoles pour l'association. On a lancé une grande campagne de recrutement il n'y a pas longtemps, là, où les gens peuvent, à mesure de leur temps et de leurs appétences, de leurs compétences, venir nous aider quelques heures par semaine, quelques heures par mois. On a plein de petites missions, des choses qui demandent pas forcément des compétences particulières, mais du temps. Déjà être référent dans leur propre club, ça c'est la première chose, mais aussi avoir des idées, nous aider sur des compétitions particulières. On tient des stands un petit peu sur tous les gros tournois, à Orléans, à Nantes, aux IFB forcément. Donc il y a vraiment de quoi faire. Si les gens veulent s'investir avec nous, ce sera avec grand plaisir.
Oui, du coup, tu as mentionné plusieurs, pas mal de biais même par lesquels on peut vous soutenir. J'en avais à noter encore deux. Il y a votre boutique aussi, Solibad en ligne. Et effectivement, je le mentionne parce qu'on connaissait très bien votre ancien service civique, mais vous avez aussi ça. Enfin, c'est aussi un moyen pour ceux qui auraient, je sais pas, des compétences ou particulières ou pas, de vous aider. N'envoyez pas 1 million de CV à Solibad peut-être, mais en tout cas, il y a beaucoup de biais pour vous aider.
Tout à fait. Le service civique, on en cherche un pour les partenariats. On vient d'en accueillir un jeune là, de la région pour tout ce qui est communication, mais on cherche effectivement dès à présent quelqu'un qui pourrait nous aider sur la recherche de sponsors, de partenariats. Donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse, si vous avez moins de 25 ans, un petit peu de temps, vous pouvez nous envoyer des CV. Alors la boutique, tu as raison, on va avoir les nouveaux t-shirts là qui vont être lancés pour les IFB, donc vous pourrez venir voir. Et puis il y a les dons, hein, tout simplement, les gens peuvent, ils n'ont pas de temps, ils peuvent simplement faire un don sur notre plateforme, c'est défiscalisable, donc quand vous faites un don de 20 euros, ça vous coûte, si vous payez des impôts, ça vous coûte 6 euros, donc c'est pas énorme non plus, donc n'hésitez pas aussi, ça, c'est tout bête, hein, mais ça nous aide bien pour aider et soutenir nos programmes.
Bah voilà, Raphaël, c'est tout pour nos questions. Est-ce que tu as quelque chose que tu veux rajouter à propos de Solibad qu'on aurait oublié, dont tu veux parler?
Non, je crois qu'on a fait le tour. Le but, c'est vraiment, nous, on s'amuse en le faisant. On n'est pas du tout larmoyant. Ce sont des programmes qui sont durs. Effectivement, quand on regarde de loin et sur le site, on voit que ce sont des gamins qui sont quand même en grande précarité. Mais en fait, il y a beaucoup de joie chez eux. Et quand on y va, on apprend beaucoup, on se fait plaisir. On sait qu'on leur fait plaisir et qu'on les aide. Mais ça se passe aussi dans un climat vraiment de sérénité, de jovialité. C'est important pour nous. Et je pense que les gens qui nous rejoignent vont aussi pouvoir comprendre ça et ressentir ça, cette véritable communion dans la joie. Et c'est important parce qu'il y a beaucoup d'associations caritatives qui sont aussi compliquées au quotidien parce qu'on est confronté à des choses qui sont dures. Nous, on a cette chance-là d'arriver à apporter un peu de légèreté, un peu de joie. Et le badminton est un excellent soutien, un excellent support, un excellent outil pour le faire. Et donc ça fait du bien aussi d'aider. Et je pense que les gens qui nous ont rejoints le sentent bien.
Voilà, alors j'ai pour nos auditeurs, je mettrai dans la description de cet épisode le site de Solibad et notamment la page consacrée au Solibad Days. Je rappelle que c'est les 5, 6 et 7 avril 2024. Et après, comme Raphaël l'a dit, il y a les IFB et Orléans qui arrivent, donc il y a toujours des stands Solibad, donc je vous encourage à aller voir pour en apprendre encore plus. Merci beaucoup Raphaël d'être venu nous parler de Solibad dans 21 Shuttle.
Ben merci à vous, c'était sympa de lancer cette invitation-là. Merci bien.
Merci Raphaël.
Et on te souhaite donc le meilleur pour la suite avec Solibad et notamment les Solibad Days.
Merci beaucoup.
Voilà, c'est tout pour cet épisode, merci de l'avoir écouté. Pour rappel, toutes les informations à connaître sur les Solibad Days sont dans la description de cet épisode. On se retrouve lundi pour le débrief des IFB. À la prochaine.绽放我们激情的节奏，把那束缚抛开的时候，共同感受这片天空带给我们的自由。挥动你我坚强的双手，努力奔向成功的尽头。我们的梦握在手中，绝不等候。在经历这平凡的生活。